France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jack Kerouac au bout du rouleau. Le 25 mai 2010, les éditions Gallimard publient la première version de Sur la route, le chef-d'œuvre de l'écrivain américain Jack Kerouac, et c'est un choc. Parce que c'est un texte éblouissant de modernité qui apparaît. On y croise, sous leur vrai nom, ceux qui deviendront les poètes les plus puissants des années 60. On s'y drogue, on y couche avec des femmes et des hommes. Mais ce texte ne se limite pas à des histoires de sexe ou de drogue. Des boîtes de jazz de San Francisco au Lupanar du Mexique, c'est une mélancolie très blues qui affleure, incarnée par une langue audacieuse et musicale. Une langue que toutefois, les éditeurs de l'époque ne comprennent pas. Durant 6 ans, ils exigent de Kerouac qu'il revoie sa copie. Jusqu'à ce qu'en 1957, le livre soit enfin publié et qu'il devienne la Bible de la Beat Generation. Alors, d'où vient ce mal de vivre qui enserre Kerouac tandis qu'il connaît enfin le succès? Comment comprendre son désir de s'aborder le mythe qu'il a lui-même créé? Notre invité aujourd'hui, l'écrivain et éditeur Bernard Comment. Ancien directeur de la Maison de la Poésie à Paris, il a produit le documentaire intitulé « Jack Kerouac, l'écrivain derrière l'icône », diffusé sur France Culture dans l'émission « Surpris par la nuit » dont nous entendrons des extraits. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
New York, été 1958. Les fêtes s'enchaînent au son du jazz, mais l'homme au centre de l'attention a l'air étonné. Il s'appelle Jack Kerouac, et ça fait 1 an que son livre Sur la route est sorti. Le succès est immédiat. Les demandes d'interviews s'accumulent, les lecteurs se jettent dans ses bras, et son éditeur l'assure, ce livre, c'est le carton de l'année. L'autre jour, il a même débarqué chez lui, une caisse de champagne sous le bras, pour lui annoncer qu'Hollywood veut adapter son livre. Hollywood, qui se prosterne devant lui. Ah, ce n'est pas rien. Jack sourit, et se laisse aller à imaginer Marlon Brando au casting. Souvenir de la fiancée de l'écrivain Joyce Johnson dans son livre « Personnage secondaire ».
Les demandes d'articles en tout genre affluaient au bureau de son agent Sterling Lord. Jack aurait pu passer le restant de ses jours à parler de littérature ou de l'état de la société et gagner ainsi des milliers de dollars. À l'automne, il décida d'aller à Hollywood rencontrer Marlon Brando qu'il trouvait parfait pour le film. Sa célébrité lui ouvrait toutes les portes.
Tout va si vite. Dans son livre, Joyce écrit qu'un jour, à la fin de l'été 57, Jack s'est couché inconnu pour la dernière fois de sa vie. Quelques heures plus tard, en effet, le téléphone le réveille. On parle de Jack dans le New York Times. L'article, plus qu'élogieux, est signé par un certain Gilbert Minstein en l'absence du critique littéraire habituel. En quelques phrases, cet intérimaire donne un coup d'accélérateur inouï à la carrière de Jack. Ou bien sûr, face aux best-sellers, on trouve toujours des grincheux. Ici, ce sont surtout des lecteurs de plus de 40 ans, à l'instar du grand écrivain Truman Capote, qui déclare...
Vous voulez savoir ce que je pense du fameux livre Sur la route? Mon Dieu, comment dire? Je pense que Jack Kerouac n'écrit pas, il ne fait que taper à la machine. Comprenez bien que ce livre, ce n'est pas de l'écriture, c'est de la dactylographie.
Ouh, le jaloux. Dans son sillage, d'autres affirment que les personnages de Kerouac ne sont que des paumés qui méritent un bon coup de pied aux fesses. Mais face à ces critiques, il y a la jeunesse américaine. Une jeunesse issue de 2 conflits. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi la guerre de Corée. Un traumatisme aux yeux des familles qui, en conséquence, dorlotent leur progéniture comme autant de trésors à préserver. Et s'il n'y avait que les familles, il y a aussi les publicitaires. La société de consommation est alors en plein essor et les jeunes représentent une part de marché importante. Le mot « teenager » vient d'ailleurs d'être inventé. Il est apparu dans le journal Popular Science et il a pris comme un feu de paille. Ces teenagers grandissent donc dans un pays à la fois conscient de la folie du monde, mais très conformiste. Mais ces jeunes ne sont pas dupes de la société qu'on leur propose. À leurs yeux, les adultes ne sont donc à déclencher des guerres ou à consommer. Alors quoi, se ruer dans les supermarchés avant de rentrer regarder la télé? Non, très peu pour eux. Preuve en est l'immense succès du film La Fureur de Vivre, sorti en 1955, dont le titre américain reflète bien cette part de désespoir qui les traverse. Rebelles sans raison. Dans ce film, c'est James Dean qui incarne le rebelle, et les ados s'identifient à lui. 4 ans plus tard, c'est pour les héros de Kerouac que le cœur des jeunes s'embrase. Leur nom, Sal Paradise et Dean Moriarty. Le premier est le narrateur, un type doux et suiveur. Le second est son ami, indomptable. Tous deux trouvent le monde intolérable. Et tous deux n'ont qu'un désir, vivre à fond la caisse en traversant les grands espaces et en dynamitant les valeurs bourgeoises. Un nouveau terme s'impose alors pour les qualifier. Ils sont « beat » comme « rythme » ou « battre le rythme » et ils parlent une langue qui leur ressemble. Explication avec l'écrivain Yves Le Pellec sur France Culture.
Mais il faut dire qu'à cette époque-là, donc dès 1944, même déjà légèrement plus tôt, Kerouac et Ginsberg, mais surtout Kerouac, avaient commencé à fréquenter les boîtes de jazz de Harlem, comme le Minton's Playhouse, où jouaient les musiciens, les grands musiciens du bop. Parker y jouait déjà, Thelonious Monk et d'autres. Et ils avaient un contact avec, d'une part, le monde de Harlem, et d'autre part, le monde de Times Square, c'est-à-dire un endroit où échouaient pas mal de jeunes épaves de la société américaine, où se mêlaient des formes de délinquance diverses, et où se parlait un jargon, une langue, peut-être pourrait-on dire, qui était la langue hip.
He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart.
Ce terme beat, c'est bien Kerouac dont on vient d'entendre la voix qui l'a créé. Nous sommes en 1948, lorsque le romancier John Clennon Holmes lui demande de décrire leur état d'esprit à lui et ses amis. Comment dire ? Jacques réfléchit, puis lance. Disons que nous sommes beat. John Clennon Holmes sourit et s'en va écrire un article pour le New York Times, titré « This is the Beat Generation », un vrai manifeste politique.
Il y a quelques mois, un magazine publiait un article intitulé « Jeunesse ». Il y était question d'une Californienne de 18 ans, interpellée pour avoir fumé de la marijuana. Et sa seule plainte était « Pourquoi les gens ne nous laissent pas tranquilles ?» C'était le visage d'une génération beat. Toute tentative d'étiqueter une génération est vaine. Et pourtant, élevée dans une dépression morne, sevrée par le déracinement d'une guerre mondiale, elle se méfie de la collectivité. Sa soif de liberté l'a conduite au marché noir, au bebop, au stupéfiant, à la promiscuité sexuelle, au charlatanisme et à Jean-Paul Sartre. Il n'y a aucune envie de briser la société carrée dans laquelle elle vit, seulement de l'éviter. Monter sur une tribune ou écrire un manifeste lui paraît absurde. Cette génération ne fabriquera peut-être pas de bombes, mais on lui demandera probablement d'en larguer. Et ce fait est toujours présent à son esprit.
Oui, la guerre est toujours présente dans son esprit et dans le leur. Alors en attendant d'être sacrifié, pourquoi ne pas jouir de la vie, hein ? Évoquant la génération de leur père servile, le héros Dean Moriarty l'assure à Sal Paradise, son compère. Tu vois, tu réalises leur rêve et ça les fait paniquer. À la lecture de ces mots, les adolescents jubilent. Et de plus en plus, il tourne le dos au modèle parental, comme l'explique le réalisateur William Ferry sur France Culture.
L'esprit ne peut pas vivre dans un coin moyenne classe avec tous les rêves d'Amérique, de 2 voitures, une petite maison, 2 enfants et un travail. Ça, c'est un cauchemar. Pour toute la jeune, les jeunes personnes de cette génération ont eu peur de ce rêve. Ils ont cherché un autre rêve. Ils ont trouvé ça dans les champs, sur la route, avec leurs amis.
Un cauchemar que ce rêve américain. Alors oui, autant s'enfuir. Retrouver les sensations primaires des pionniers. Avancer en stop. En Greyhound, le réseau de bus national, ou faire sa toilette dans les torrents. Leurs points cardinaux sont New York, Denver et San Francisco, avec des crochets vers la Nouvelle-Orléans, la vallée de San Joaquin, en Californie, et enfin, cap sur le Mexique. Une errance aux allures mémorielles, précise le journaliste musical Anna Dister dans Géo, en juin 2004.
Sur cette route, on retrouve les sensations des hobos, attrapant ici et là des travaux saisonniers durant la Grande Dépression. Les bluesmen ont bien chanté cette existence éphémère et solitaire. A Long Long Way From Home. Walker Evans et Dorothea Lange ont photographié ces héros inconnus, évoqués par John Steinbeck dans Les Raisins de la Colère. Ces Hokies, fuyant les tempêtes de poussière, galvanisés par l'idée d'une terre promise, là-bas, en Californie. La route qui a d'abord inspiré Kerouac, c'est celle-là. Un ruban de terre battu, déroulant à l'infini des plaines brûlantes en été, balayées par le blizzard en hiver.
Entre ces allers-retours, fumer de la marijuana, inhaler de la benzédrine, lire Rimbaud et Céline, et faire l'amour autant que possible. Un programme très romantique, incarné dans ces mots de Kerouac. Je n'avais rien d'autre à offrir que ma propre confusion, et j'avais envie de poursuivre plus loin mon étoile. Une prose qui fait chavirer les cœurs. Oh, bien sûr, ce genre de quête initiatique n'est pas nouveau dans la littérature. D'Homère à Melville, en passant par Herman Hesse, nombre d'écrivains ont décrit des hommes au parcours friable et erratique. Mais ici, il y a plus. Il y a le sexe, toujours désinvolte, l'amitié, souvent tumultueuse, mais surtout, il y a ces paysages à couper le souffle et ces bouffées de chagrin à la nuit tombée. Description par Kerouac dans un autre de ses livres, Visions of Cody.
L'Amérique, c'est être recherché par la police, poursuivi à travers le Kentucky et l'Ohio. C'est la photo d'une hache dans Détective. C'est la nuit impersonnelle aux embranchements où chacun regarde de côté, des quatre côtés. L'Amérique, c'est le pays où on n'a même pas le droit de pleurer sur soi, le pays où les Grecs ont du mal à se faire admettre. L'Amérique, c'est aussi le néon rouge et les cuisses dans l'hôtel minable. C'est les ivrognes qui sortent la nuit comme des cancrelats quand les bistrots ferment. C'est des hommes, des hommes, des hommes qui pleurent en se mordant les lèvres.
Voilà pourquoi les teenagers se ruent sur le livre. Ils y trouvent la liberté, mais aussi cette part de cruauté qu'ils pressentent dans leur pays. Et puis il y a cette écriture, si musicale, si franche. On parle alors d'action writing, de prose spontanée. En vérité, il s'agit d'une véritable expérience physique qui consiste à écrire vite, sans rature, sans complexe et sans jamais revenir en arrière. Écrire comme on conduit, en quelque sorte, à fond la caisse. Nous sommes le 2 avril 1951 et Jack Kerouac a 29 ans, un physique d'acteur et des livres pleins la tête. Cela fait des années qu'il écrit. Il a déjà traversé 4 fois le pays aux côtés de ses amis Neil Cassidy, William Burroughs, Alan Ginsberg, et il a tout noté. Ces gars-là l'inspirent. Retranché dans sa chambre du quartier de Chelsea, dopé au café comme Balzac en son temps, le voilà qui se lance. Il commence par coller des dizaines de feuilles de papier entre elles qu'il insère dans sa machine à écrire Underwood. Le résultat est immédiat. Face à lui, un long rouleau de papier se déploie, semblable à une longue route blanche. Puis il lance un disque de Lester Young, l'un de ses jazzmen préférés. Il ferme les yeux, s'imprègne du rythme et repense à son rêve, écrire à la manière d'un saxophoniste par une chaude après-midi d'été. Puis il allume une cigarette et il attaque par ses mots. « I first met Matt Neal not long after my father died. J'ai rencontré Neal peu de temps après la mort de mon père. » Mais s'en rend-il compte de cette répétition? I met Neil. Est-ce une erreur? Sans doute pas. Simplement la marque du rythme et de l'audace. Certains y voient la double croche d'un bebop de Charlie Parker, d'autres le sursaut d'une voiture qui tousse au démarrage. Témoin de ces scènes d'écriture, l'un de ses amis raconte. Il s'asseyait à sa machine avec tous ses calepins posés ouverts sur la table, à sa gauche, et il tapait. Je n'ai jamais vu personne taper aussi vite. On entendait le chariot revenir sans trêve, avec un claquement. Le petit grelot faisait ding-dong, ding-dong. Il s'amusait comme un fou. Il s'amusait, il espérait surtout, que cela marche et qu'il parvienne enfin au bout de sa route. Et de fait, 3 semaines plus tard, Kerouac a noirci 36 mètres de son rouleau, comme il explique le 22 mai 1951 à Neil Cassidy dans cette lettre devenue culte.
Du 2 avril au 22, j'écris 125 000 mots d'un roman complet. Une moyenne de 6 000 mots par jour. 12 000 le premier, 15 000 le dernier. L'histoire traite de toi et de moi sur la route. Comment nous nous sommes rencontrés en 1947. Les premiers temps. Denver en 47. Le voyage en 49 dans ta Hudson. Cet été dans la Plymouth et la Cadillac à 180 à l'heure. Et Chicago et Détroit. J'ai raconté toute la route à présent. Je suis allé vite parce que la route va vite. J'ai écrit tout le truc sur un rouleau de papier de 36 mètres de long, du papier calque. Je l'ai fait passer dans la machine à écrire et j'ai pas fait de paragraphe. Puis je l'ai déroulé sur le plancher et il ressemblait à la route.
Le résultat est saisissant. Aucun blanc, aucune pause dans cette prose qui ronronne comme une Cadillac. Les éditeurs comprendront-ils sa démarche ? Kerouac l'espère. Et il ne peut s'empêcher d'être enthousiaste. À l'instar de son héros qui déclare « La vie est un bol de cerises juteuses que je veux croquer l'une après l'autre en me tachant les dents avec le jus. » Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jacques Kerouac au bout du rouleau.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Anyway, I wrote the book because we're all gonna die.
Jacques Kerouac, 1959.
In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away.
New York, années 60. Kerouac le sait. Son livre a allumé la mèche d'une révolution littéraire. Pour preuve, plusieurs universités l'ont déjà intégré à leur programme. On loue son style, on s'inspire de ses valeurs libertaires. Mais alors, pourquoi se sent-il si décalé ? Où est le problème ? C'est comme si un mal silencieux le rongeait. La vérité, c'est que le livre ne lui plaît qu'à moitié. On se l'arrache en librairie, mais ce n'est qu'une version tronquée du premier bouquin, celui qu'il avait écrit en 1951. En trois semaines, il en était si fier. Souvenir de son éditeur, Robert Giraud.
Ce jour-là, Jack a l'air euphorique, comme quelqu'un qui a bu. Il a sous le bras un rouleau de papier qui ressemble à ces essuie-tout que l'on trouve dans les cuisines. Il attrape le rouleau par un bout et il me le jette à travers la pièce, comme un gros serpentin, pour qu'il atterrisse sur mon bureau. Alors je dis, « Jack, tu comprends bien qu'il va falloir le découper, ce rouleau. Il va falloir le travailler. » Et là, je le vois rougir, et il me répond « Ce manuscrit-là, pas question d'y toucher. Il a été dicté par le Saint-Esprit. »
Mais le Saint-Esprit n'est pas avec lui ce jour-là. Ce serait trop facile. Et l'éditeur oblige Jack à revoir sa copie. C'est qu'on ne plaisante pas avec la morale. Nous sommes en 1951, et le sénateur McCarthy vient d'être nommé président de la commission d'enquête sur les activités anti-américaines. Et tandis qu'on se blottit dans les banlieues pavillonnaires, tandis qu'on craint les Noirs et les communistes. Jack raconte la bohème. Soudain, l'éditeur plante son regard dans celui de l'écrivain et il lui demande « Mais où cela mène-t-il ? » Alors, à nouveau, Kerouac explique. Sur la route est le roman de deux gars qui partent en Californie en autostop à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment et qui, au bout du compte, se perdent sur la route et reviennent à leur point de départ, plein d'espoir dans quelque chose d'autre. Ouais, l'éditeur reste dubitatif. Et puis, il refuse l'idée que les vrais noms des protagonistes apparaissent. Il risque un procès en diffamation. Enfin, que dire de cette fascination qu'éprouve le narrateur pour son compagnon de route ? Vous dites une amitié amoureuse ? Vous plaisantez ? C'est de l'homosexualité. Comprenez-moi bien, Jack. En l'état, c'est impubliable. Alors, Kerouac rentre chez lui et reprend l'écriture du livre. Pour commencer, il change de patronyme. Allen Ginsberg devient Carlo Marx. Lou Anne devient Marie Lou. Et pour William Burroughs, ce sera Ray Lee. Bien, mais quel nom choisir pour Neil Cassady ? Pourquoi pas Dean Moriarty, en hommage à James Dean, un mec à la dure, pupisante humeur. Et puis Kerouac l'avoue, Cassady lui fait penser à son frère, Gérard, mort de la scarlatine en 1926. Le futur écrivain avait alors 4 ans, et il ne s'en remettra jamais vraiment. Pour transcender ce drame, la famille s'enfonce dans le catholicisme. Le père est ouvrier imprimeur, la mère s'occupe des enfants. Tous deux appartiennent à une communauté de Québécois immigrés à Lowell, aux États-Unis. Et peu à peu, aux yeux de Kerouac, Gérard acquiert une figure de saint, oui, et même de guide. 20 ans plus tard, c'est Cassady qu'il va suivre comme un guide. Et puis, il est né le même jour de la mort de Gérard, comment ne pas frissonner. Confession de Kerouac.
Il me faisait penser à un frère que j'aurais perdu depuis longtemps. La vue de son visage douloureux et anguleux aux longues roues flaquettes et son cou musclé, suant sous l'effort, me rappelait mon adolescence dans les dépotoirs de peinture. Le travail souillé lui collait à la peau avec tant d'élégance. Quant à sa criminalité, elle s'affirmait comme une sauvage explosion de la joie américaine. C'était l'Ouest, le vent de l'Ouest. Un hymne jailli des plaines. Quelque chose de neuf, depuis longtemps prédit, depuis longtemps attendu.
En vérité, Cassady est indomptable. Rien ne le fixe, pas même ses amis. Kerouac lui envoie son manuscrit, il n'accuse pas réception. Ginsberg lui avoue son amour, il hausse les épaules. En revanche, il écrit lui aussi, et plutôt bien pour un voyou. Ses lettres sont empreintes de sa frénésie, comme celle-ci, où il décrit sa passion pour une certaine Jeanne. On l'a fait sur des terrains de golf, sur des toits, dans des jardins publics, des cimetières, tu sais, la maison des morts, sur des talus enneigés, dans des écoles et dans des cours d'école, dans des salles de bain d'hôtel, dans des maisons vides dont s'occupait sa mère, elle était agent immobilier. Enfin, partout où on se trouvait au petit bonheur la chance, on l'a fait dans tellement d'endroits que Denver était recouvert de traces de foutre. Alors à la lecture de ces mots, bien sûr, le cœur de Kerouac chavire. Des années plus tard, l'éditrice des lettres de Cassady l'affirmera. Sans Cassady, Jack ne serait pas devenu Kerouac. En découvrant le style de Cassady, Kerouac a une sorte de déclic. Oui, il est possible d'écrire comme ça, à la première personne et sans embâche. Voilà pourquoi le refus des éditeurs le rend malade. En acceptant de calmer sa fougue, il sent bien que c'est une part de vérité qu'il trahit. Mais l'envie de publier est tellement forte. On le prend pour un glandeur ? C'est un bosseur acharné. Durant 6 ans, le voilà qui édulcore, qui arrondit les angles. On lui demande même de modifier la première phrase du livre, celle qui dit « J'ai rencontré Neil peu de temps après la mort de mon père » et qui devient « J'ai rencontré Dean peu de temps après qu'on a rompu ma femme et moi ». C'est-à-dire qu'il doit chasser l'idée même de la mort du père, alors que c'est précisément cette absence familiale qui plane sur l'histoire. Et une fois de plus, Kerouac plie. Le 10 janvier 57, le contrat est enfin signé avec les éditions Viking. Le 5 septembre, le livre est en librairie avec le succès que l'on sait. Mais Kerouac a 35 ans et il est déjà usé. La route, il l'a faite 10 ans auparavant et il en est revenu. Alors bien sûr, quand sonne l'heure de la gloire, il ne peut s'empêcher d'éprouver des sentiments contradictoires. Tous ces honneurs, cet argent facile, c'est gratifiant. Mais comme c'est étrange... Extrait de sa correspondance où il apparaît comme un homme harcelé.
C'est la première fois que je pars de chez ma mère depuis sur la route. le livre qui m'a rendu célèbre. Tellement célèbre, en fait, que pendant 3 ans, j'ai eu une existence de cinglé avec à tout bout de champ des télégrammes, des coups de téléphone, des visites, des journalistes. Une grosse voix me lance à la fenêtre au moment où je m'apprête à écrire une histoire. « Es-tu occupé ?» Et la fois où le reporter a grimpé 4 à 4 jusqu'à ma chambre, j'étais en pyjama et j'essayais d'écrire un rêve que je venais de faire. Les jeunes gens escaladent la clôture de 2 mètres que j'ai fait dresser autour de ma cour pour être tranquille. Les invités, bouteille à la main, braillent à la fenêtre de mon bureau. « Viens prendre une cuite avec nous, tu vas t'abrutir si tu travailles tout le temps. » Une femme me dit « J'ai besoin d'un vrai beatnik pour ma sauterie annuelle. »
Car la mode est bel et bien lancée. Certes, il y a le succès de son livre, mais il y a aussi le poème « Hole » qu'a lancé Ginsberg et qui lui vaut un procès pour obscénité. Puis c'est au tour de Burroughs de publier le festin nu. En quelques années, ils deviennent les gourous de la génération montante. Or, Kerouac n'a jamais désiré prendre la tête d'un mouvement, non. Ce qu'il veut, c'est écrire comme bon lui semble, et surtout, qu'on lui foute la paix. Alors, il est conduit les filles qui viennent frapper à sa porte. Il écrit à son ami Gary Snyder « Je voudrais te donner une idée du merdier que c'est d'avoir à satisfaire tous ces cons d'inconnus de la Terre. » Pas étonnant que Hemingway soit allé à Cuba et Joyce en France. J'étais amoureux du monde quand je l'ai connu. Et maintenant, il faut que je le regarde avec des yeux durs comme l'acier. Je survivrai tel que je suis, néanmoins. Oui, il survivra, mais ce sera aride. Les étudiants attendent de lui un souffle, mais lui ne veut rien promettre. Preuve en est cette altercation survenue à la Brandeis University, près de Boston. Devenir quoi ? Un leader contre la guerre du Vietnam ? Hors de question. Il est venu pour parler littérature. On lui rappelle qu'il a créé le mouvement Beatnik. Il répond que ce mot est ridicule et qu'il lui fait penser au satellite Spoutnik. Choqué, les étudiants le sifflent. Et voilà qu'il les traite de merdeux communistes. Dans la foulée, les médias s'interrogent. Mais qui est donc ce Jack Kerouac au juste? Et comment peut-il être aussi syriaque? Certains rappellent son sens de la provoque. D'autres soulignent son alcoolisme. Alors on interroge ses amis, Burroughs, Ginsberg, et on apprend qu'eux aussi se sont fâchés avec lui. En vérité, Kerouac va mal. Il se réfugie dans l'alcool et chez sa mère, qui perd la tête. Comme en témoigne le photographe Robert Frank, toujours sur France Culture.
On a fait un voyage en Florida pour chercher sa mère, qui revenait parce que Kerouac a acheté une petite maison pour elle à Long Island. C'était une dame horrible. La mère de Kerouac, très réactionnaire, très catholique, très... Tout. Elle était contre tout, contre les Indiens, contre les Juifs, contre... C'était une femme absolument inoubliable. So, you know. Mais lui, il était bien. C'était un type très, très modeste. Qui ne pouvait pas survivre l'accueil et la famousness qu'il a trouvé quand il était jeune, vraiment.
Chaque jour, le duo mère-fils descend 1 litre de whisky, sans compter les bières. 8 clos mortifères. À son contact, voilà que Kerouac cède à ses obsessions catholiques. Il écrit « À Lowell, je suis allé dans la vieille église où je fus confirmé. Je me suis agenouillé et brusquement j'ai compris. Beat veut dire béatitude. Oui, béatitude. En anglais, béatitude se dit bliss. Mais ici, Kerouac se moque bien de l'anglais, cette langue qui incarne le succès. Non, il lui préfère le français et refaire toute l'histoire. Exemple, dans cette interview accordée en 1967 à Paris Review.
Oh, vous savez, Beat Generation est juste un mot que j'ai utilisé en 1951 pour décrire des types comme Dean Moriarty. Qui courait le pays en bagnole en cherchant du boulot, des filles, des coups. C'est ensuite que des groupes de gauchistes de la côte ouest ont parlé de « révolte beat », de l'insurrection beat, mais ça n'avait aucun sens. Ils voulaient juste utiliser des jeunes pour arriver à leur fin politique. Moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. J'étais juste un joueur de football, un étudiant, un marin.
En somme, Kerouac récuse toute dimension politique de son art. Il exècre ce statut de star monté par des éditeurs opportunistes et minables. Abordant la cinquantaine, c'est le passé de sa famille qu'il préfère sonder. une nouvelle passion dévorante. Car il veut des réponses. Cette ascendance bretonne est-elle exacte? Lorsqu'il était enfant, son père le serinait « N'oublie pas que tu es breton ». Depuis 2 siècles, la famille entretient le mythe d'un aïeul glorieux, un certain Urbain François Le Bihan, sieur de Carvoac. Dans la foulée, on imagine des terres armoricaines plutôt qu'américaines, des armoiries et même un trésor. Mais ce n'est pas le trésor qui intéresse Kerouac. Non, c'est la quête d'identité. En 1965, il engage un voyage aussi triste que romanesque. Il prend la route pour Paris, où il se fait conduire par les secrétaires de son éditeur français. Comprenez, son allure de poivreau n'inspire pas confiance. Idem aux Archives nationales, où il lance des recherches généalogiques. On lui rétorque que les listes ont brûlé durant la guerre. Alors il saute dans un train direction Brest, où il se perd, s'endort sur un banc, rate sa correspondance, croit trouver son bonheur chez un libraire, en vain. Plus que jamais, le motif de son voyage lui échappe. Mais il s'acharne. Son ancêtre, pourtant, était un voyou rejeté par son père après qu'il eut violé une fille durant un mariage. Une vérité que Kerouac ignore et qui, sans doute, ne l'aurait pas choqué. De toute façon, cette quête est son dernier fantasme, sa façon à lui de ne pas sombrer. Souvenir de son ami Herbert Hunkel.
Quand il était devenu, enfin j'utilise ce terme, mais quand il était devenu vraiment alcoolisé à la fin de sa vie, il n'avait rien perdu de sa beauté, mais il avait l'air triste, affreusement triste. Et puis, son visage était tout taché. Vraiment, il avait changé.
En février 68, à l'issue d'une noce, le corps de Neil Cassidy est retrouvé au Mexique le long d'une voie ferrée. Certains accusent les stupéfiants, d'autres le froid ou sa déficience rénale. Sa femme, Caroline, déclare « Les causes exactes de sa mort, on ne les connaîtra jamais. » Quelques mois plus tard, miné par l'alcool et le sentiment de perte, Kerouac accorde sa dernière interview au St. Petersburg Times, où il répète « I'm not a beatnik, I'm a Catholic ». Il mourra 9 jours plus tard, un billet d'avion pour la France au fond de sa poche.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Jack Kerouac et la Beat Generation. Notre invité Bernard Comant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Votre dernier roman, La Ferme du Paradis, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et vous connaissez bien l'histoire culturelle des États-Unis. Vous avez édité les écrits de Marilyn Monroe dans le livre Fragments, c'était au Seuil en 2010. Et vous avez produit le documentaire Jack Kerouac, l'écrivain derrière l'icône, diffusé sur France Culture dans l'émission Surpris par la nuit, dont nous avons écouté des extraits. Vous vous souvenez de votre première lecture de Sur la route, de vos premières sensations?
Oui, je m'en souviens très bien. J'étais très jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, on faisait des expériences un peu prohibées, et c'était à ce titre un peu un modèle beatnik. Donc c'était un peu la mauvaise porte d'entrée, parce que c'était pas l'écrivain qu'on lisait, c'était un peu
le
héros et le porte-drapeau d'une bohème renouvelée.
L'écrivain d'ailleurs, Philippe Djian, dit que c'est grâce à Bob Dylan qu'il l'a découvert. Bob Dylan parlait de Sur la route comme d'une manière de vivre. Son influence a balayé ma génération, disait-il. Il nous a permis aussi de mieux draguer. On voit, il y a un côté idéal et puis un côté très, très pragmatique finalement. Enfin, les deux, quoi, ça se mélange bien.
Je pense que Kerouac ne devait pas être un très bon dragueur. Et d'ailleurs... un peu le mouvement qui était à l'origine de son écriture et de l'écriture de Sur la route, c'est un échec amoureux. Il n'arrive pas à se stabiliser avec une femme, et il le dit hein, dans ses journaux de bord. Il dit, ben voilà, moi j'aurais aspiré à fonder une famille, à avoir des enfants, mais j'y arrive pas. Et donc, c'est un peu une quête d'amour aussi. Ce que la ville n'offre pas, peut-être que les grands territoires américains vont en offrir la possibilité, ce qui est le cas dans Sur la route, puisqu'il y a quelques rencontres amoureuses au demeurant assez déchirantes.
Et qu'est-ce qui vous émeut le plus dans cette histoire? C'est sa rupture de banc avec la société bourgeoise, ou le fait qu'il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas?
Alors, rupture de banc, oui, il y a ça. Sa famille, elle est assez difficile à qualifier. Hein. Le père est employé dans une imprimerie. La mère est une mère au foyer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Kerouac qui vit dans un univers complètement fermé, parce que son frère aîné, qui a 5 ans de plus que lui, va mourir à l'âge de 9 ans. Il a une paralysie cardiaque, quelque chose comme ça. Et donc, il y a ce déclin, cet enfant qui passe les journées dans son lit, et qui est un véritable saint, une figure du saint, qui va beaucoup l'impressionner. Et vivant confiné dans cette famille, il vit confiné dans le français, ou son équivalent, le joual, c'est-à-dire le français pratiqué par les exilés du Québec qui sont dans le Massachusetts. Et donc, pour lui, la langue anglaise, c'est quelque chose qu'il entend dans la rue, de façon très sporadique, parce qu'il ne sort pas beaucoup de l'univers familial. Mmh. Donc c'est des sons avant d'être des sons. C'est du son avant d'être du sens. Et ça, je pense que ça va être absolument décisif pour lui. C'est-à-dire qu'il est dans un bain culturel qui n'est pas celui dans lequel il va être plus tard la star des lettres américaines.
Ah oui, première contradiction, il y en aura d'autres. Donc en fait, son œuvre et sa vie sont marquées par le saut de la perte, de l'abandon aussi, non ?
Oui, alors il y a plusieurs pertes. Il y a d'abord effectivement celle de ce frère auquel il va consacrer plus tard et écrire en 1956 ce livre merveilleux qui s'appelle Vision de Gérard. Et puis il y a la perte du père. Le père, c'est très intriguant parce que on sent que d'une certaine façon, il serait plus proche de ce père qui est un peu l'ouverture par rapport à la maison, j'allais dire la maison close, mais disons à la clôture de la maison familiale. Mais en même temps, quand ses talents de footballeur, parce que c'était un très bon footballeur de football américain,
ah oui.
Quand ses talents de footballeur lui ouvrent la possibilité, comme c'est le cas aux États-Unis, d'entrer dans des universités de prestige, le père, qui est employé dans une imprimerie à Boston, pousse pour qu'il aille à l'université de Boston, et on le fait agir dans ce sens, eh bien, avec la mère, Jack Kerouac choisit d'aller à New York. Résultat, le père se fait virer de l'imprimerie. Et se développe à ce moment-là cette coexistence avec la mère, dont on peut à la fois se dire qu'il n'a pas cessé d'essayer de lui échapper. Il essaye de lui échapper par l'Est, c'est-à-dire qu'il s'engage dans la marine militaire, et ensuite dans la marine marchande. Et puis il revient à New York, et à ce moment-là, il opte pour l'échapper vers l'Ouest. Il dit lui-même que il est un peu un cow-boy. Lui et Neil Cassidy sont deux cow-boys qui ont remplacé le cheval par la voiture.
Ouais. Que pensez-vous de son style, enfin la forme de l'écriture ? Il y a le fond, mais il y a aussi la forme de l'écriture. Pour un éditeur, c'est important.
Mais c'est fondamental, la forme de l'écriture. Et ce que j'en pense, c'est que précisément, cette dimension de l'écoute est absolument fondamentale. Et dans ses journaux de bord, il note... C'est très beau parce que tout se passe en fait en 1950-51. Mm. C'est le moment où tous les essais qu'il a faits commencent à se cristalliser. 50, c'est la publication de son premier roman, The Town and the City, c'est-à-dire l'opposition entre la ville de Lowell, où il est né, où il a passé son enfance et sa jeunesse, et puis New York, qui est la ville où il arrive quand il a 17-18 ans. Et donc, il est dans la fermentation d'un nouveau roman, d'un grand roman, et il s'interroge sur la langue dans laquelle il va l'écrire. Et en mai 1950, il s'invente un dialogue, c'est absolument magnifique, il s'invente un dialogue avec un frère aîné québécois, dont il dit « Je crois qu'il est mon moi original qui revient après toutes ces années, depuis l'époque où, enfant, j'essayais de devenir un Anglais à Lowell parce que j'avais honte d'être un Canuck. Je ne m'étais jamais rendu compte, auparavant, que j'avais éprouvé les mêmes sentiments que tout Juif, Grec, Noir ou Italien éprouve en Amérique. » Voilà, c'est exactement ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire une première tentative d'écriture de Sur la route en français, en joual, qui est un français... D'accord. presque de transcription phonétique. Mm. Donc il essaye, et même après avoir écrit l'entièreté du rouleau, donc il écrit ça en avril 1951, et bien en 52, il écrit encore des textes en joual, en français, et il dit, ben, finalement, pour moi peut-être la meilleure posture, c'est de commencer en français, et ensuite de traduire, et après j'ai l'élan, et j'écris en anglais.
Alors justement, que penser de « I met, met », cette répétition volontaire?
Ah ben ça c'est magnifique, on ne sait pas si c'est volontaire au fond.
Ah oui, j'imagine qu'elle est volontaire.
Moi, ce qui est extraordinaire...
C'est pas une faute de frappe quand même.
Non, non, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui retient son souffle, il se met en apnée. Hein. C'est 20 jours pour écrire cet énorme texte, en continu, pas seulement avec du café, avec beaucoup de benzédrine aussi. Et donc, il bloque son souffle. C'est comme Marie-Josée Pérec quand elle bloque son souffle à la fin du 800 mètres à Barcelone. Là, il retient son souffle et c'est parti. 20 jours. Avec ce rouleau qui est extrêmement émouvant, parce que ce rouleau, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, c'est pas du tout un rouleau de telex, c'est du papier qu'il retrouve dans l'atelier d'un ami peintre qui vient de mourir dans un accident de métro, qui était un personnage un peu fantasque, qui a voulu ressortir d'un métro qui était en partance. Il meurt. Kerouac va dans son atelier et récupère du papier d'artiste. Il le découpe à la largeur exacte du rouleau, il colle tout ça, il prépare comme ça le terrain de son livre, 36 mètres, il engage ça dans le rouleau, et puis c'est parti, il n'y a plus d'interruption, etc. Il avait la particularité de taper très vite, hein. On sait que c'est lui qui a tapé tout le manuscrit à Tanger, c'est lui qui a tapé tout le manuscrit du Festin nu de Burroughs, et il avait très tôt appris à taper à la machine grâce à son père, dans l'imprimerie où son père était employé.
France Inter. Affaires sensibles.
Bernard Comment, il y a le livre Sur la route, publié en 1957, mais il y a la matrice, hein, le premier, le fameux rouleau qui a été refusé par tous les éditeurs. En 1951, on va écouter cet extrait de Sa vente aux enchères chez Christie's en 2001.
Un petit mot maintenant et surtout une image. Le manuscrit de Jacques Kerouac a été vendu aux enchères, on vous en a parlé. Sur la route, roman culte de la Beat Génération, écrit en 1951, sur un rouleau continu de 36 mètres de long, eh bien, il a été vendu 2 042 $, c'est-à-dire à peu près 17 millions de francs. Manuscrit de l'une des œuvres littéraires les plus importantes de l'histoire américaine. Il a été enlevé par Jim Kirsey, qui est un riche américain, propriétaire de l'équipe de football américain des Indiana Colts. Voilà.
Voilà, 2,5 millions de dollars. C'est un tiers de plus que le manuscrit de Voyage au bout de la nuit de Céline, qui se mène plutôt à Drouot. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là, car 10 ans plus tard, donc en 2012, le rouleau est exposé sous une vitre à Paris, au musée des lettres et manuscrits. Alors là, c'est un choc. Sa traductrice, José Camoun, déclare « C'est un objet magique, un objet chamanique. » Vous avez pu le voir ?
Oui, je l'avais vu à l'époque.
Alors, racontez-nous, est-ce que c'est chamanique?
Oui, c'est complètement chamanique, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un convoyeur qui est employé à plein temps par le propriétaire et qui ne s'occupe que du rouleau. Le rouleau quand il est sur place, le rouleau quand il voyage. Et là, en la circonstance, il y avait une exposition assez longue. Eh bien, ce convoyeur a passé 2 mois à Paris à être là pour, d'une certaine façon, protéger le chaman. Et c'est vrai que quand on voit cet objet, d'abord, on voit sa confection artisanale, hein, qui est très belle. Et c'est très important parce que ça permet de redécouvrir la vérité de l'œuvre de Kerouac, qui a été quand même très torturé et trituré par des éditeurs. Et là, on a ce souffle initial, souffle sur lequel il faut faire attention à ne pas avoir une vision mythologique sur cette prose spontanée, parce que c'est pas n'importe... Il a déjà beaucoup écrit de brouillon. Et surtout, Kerouac, c'est quelqu'un qui a une maîtrise absolument phénoménale de la mémoire et de la lecture. C'est quelqu'un qui a lu tout Proust en français. C'est quelqu'un qui connaît Shakespeare, l'entièreté de Shakespeare par cœur. Et donc, il est porteur de cet énorme bagage quand il l'engage, cette espèce de course de 20 jours qui va conduire à Sur la route, de la même façon que il va aussi écrire un autre livre dont je pense qu'il faut le lire, c'est Les Souterrains, 72 heures sous benzédrine. Oui. Et le livre est écrit.
72 heures.
Voilà.
On dirait Sophie Bobert, notre autrice. On l'a vu dans le récit, Kerouac n'est pas un simple libertaire. Il est plus nuancé que ça. Alors c'est un peu énervant d'ailleurs. Il refuse la vie bourgeoise, mais ses idées ne sont pas pour autant progressistes. Il est anticonformiste, mais favorable au capitalisme. Et puis, il est même très sensible au religieux. Alors peu de temps après la sortie de Sur la route, il déclare « J'attends que Dieu me montre son visage ». Autant de nuances qui ont nourri les malentendus à son égard. Il y a de quoi, non ?
Oui, mais parce que on a voulu en faire une espèce de parangon de la contestation américaine, etc. Mais c'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, il s'est engagé dans la marine militaire, ensuite dans la marine marchande. Il y a ensuite, disons, une tentative de libération de sa mère. Mmh. Kerouac, il faut comprendre une chose, c'est qu'il écrit toute son œuvre, qu'il avait envie de reprendre sous l'intitulé La légende de Duluoz, hein, comme Proust a fait La recherche du temps perdu ou Balzac, La comédie humaine. Il n'a pas pu le faire, mais toute son œuvre importante, elle s'écrit entre 1951 et 1956.
En tout cas, d'accord, mais en tout cas, son aura auprès des artistes est toujours prégnante. Moi, je pense à Jim Morrison dans Riders on the Storm, Bruce Springsteen et son album Nebraska, qui est d'ailleurs doté d'une photo en hommage, hein, sur la route. Je pense à She's Living Home des Beatles, plus tard les road movies du style Paris Texas ou Thelma et Louise. Vous partagez ?
Oui, bien sûr, mais ça c'est une fascination durable parce que pour les musiciens, il y avait justement cette écoute, ce travail d'allitération, ce glissando qu'il y avait dans la phrase, où précisément le rythme est plus important même que le sens, où il y a presque des borborygmes par moment dans Sur la route. Et donc, il est clair qu'il a beaucoup marqué le monde de la musique. Lou Reed aussi totalement fasciné par la figure de Kerouac. Et puis après, le cinéma, c'est autre chose, parce que le cinéma, lui, il voit, il n'entend pas. Et donc, on a plus le mythe du routard, le mythe, justement, de la traversée des grands espaces, etc. Mais ça fait aussi partie de l'univers de Kerouac.
Comme Easy Rider, finalement. Merci, merci infiniment, Bernard Comment. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Jack Kerouac, au bout du rouleau. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.